Bonjour à chacun. Bienvenue, soyez bénis. Ça fait du bien, c'est cette chanson de bénédiction où on peut se bénir les uns les autres en chantant, en se donnant tous en même temps la même bénédiction. Moi, je trouve que c'est magnifique. Pour aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur le culte de dimanche passé. J'ai trouvé que c'était très fort ce que André nous a partagé. Pour rappel, il nous a dit qu'il aimait les petits prophètes et il nous a fait parcourir tout le livre de Malachie. C'est pas habituel du tout. Et il a relevé en particulier le verset 3:18 de Malachie. Je vais vous le lire. En fait, c'est parce que le culte de dimanche passé, c'était le culte de la fin de l'école du dimanche. Et le but, c'était d'envoyer les jeunes dans la vie. Et dans Malachie, il y a un verset clé, Malachie 3:18, qui dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il y a une différence. Et pour ce culte de dimanche passé, André a demandé aux jeunes qui finissaient l'école du dimanche de lui donner un verset biblique ou un passage que les jeunes aimaient. Et il a reçu des informations de la part d'Héloïse et de Norma. Norma, elle a choisi le psaume 1. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce psaume. Est-ce que c'est parce que c'est le premier puis que c'était plus simple? Est-ce que c'est parce qu'elle l'aime? En tout cas, elle l'a envoyé à André la veille à 22h. Donc je ne pense pas que André a calqué sa prédication sur le passage de Norma. Je pense qu'il était déjà prêt. En tout cas, j'espère pour lui. Et je ne pense pas que Norma avait lu tout le livre de Malachie pour se dire « c'est le psaume 1 qui correspond le mieux » ou en tout cas qui correspond bien. Mais moi, je vois la main du Saint-Esprit qui a inspiré Norma. Parce que dans ce psaume 1, il est aussi question de différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de passer du temps dans ce psaume 1. On va pas tout dire, il y a tellement à dire sur ce psaume, mais ce qui est important, c'est que c'est un psaume qui ouvre tout le livre des psaumes. Il est étroitement lié avec le psaume 2, mais c'est vraiment une ouverture sur ce recueil des psaumes, ce recueil de chants, de louanges, de complaintes, de prières, d'intercessions. C'est vraiment l'ouverture qui nous montre en fait quelle voie il faut qu'on emprunte. Alors, je vous propose de lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme. Heureux l'homme, ça c'est une exclamation. C'est presque un cri. C'est la même exclamation, c'est le même cri que Jésus a prononcé sur la montagne quand il a fait ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui, parce que. Heureux les pauvres parce que ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. C'est ce même heureux, c'est un cri, c'est une exclamation. C'est parce qu'il y a quelque chose qui suit. Et on peut voir qu'il y a deux voies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi qu'il y a une progression. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Donc, heureux l'homme qui ne suit pas ou qui ne marche pas selon les traductions, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a une progression. Il y a un mouvement qui s'arrête et qui se fige. Le conseil des méchants, celui qui suit le conseil des méchants, ça touche à la pensée, au domaine de la pensée. Les conseils, on les a les uns les autres, ça passe par la bouche, ça entre dans la tête, on réfléchit, on comprend. C'est aussi au niveau relationnel. Le fait de s'arrêter sur la voie, ça touche au comportement. Quand je m'arrête sur la voie des moqueurs, je m'arrête sur leur voie, je m'arrête sur leur chemin. Ils sont en train d'avoir des comportements et moi je m'arrête là et je commence à adapter mes comportements à ces personnes que je fréquente. Et s'asseoir en compagnie, j'ai été étonnée quand je regardais, je suis allée voir les mots qui étaient utilisés en hébreu, ce mot « asseoir », moi je voyais que ça voulait dire « habiter ». Et dans toutes les traductions en français, il y avait marqué « asseoir ». Je me suis dit, ça y est, c'est de nouveau les traducteurs. Et j'ai un petit peu cherché. Et en fait, ce mot, il peut être utilisé de plusieurs manières, mais il touche surtout à l'appartenance. C'est habiter avec un groupe. Par exemple, ça peut être assis en assemblée. Assis, par exemple, appartenir à un parti politique. Donc, qui ne siège pas dans un parti politique des moqueurs. C'est ce qu'on pourrait traduire. Donc il y a une progression. Et le psalmiste, il nous dit, mais heureux la personne qui ne laisse pas entrer dans ses pensées les conseils des méchants, qui n'adapte pas les comportements des pécheurs, qui n'appartient pas au groupe des moqueurs. Parce qu'il y a cette progression, parce que c'est comme une dégringolade. Et en fait, moi j'ai pensé à ça, hier soir on regardait le journal avec Reeds, et ils ont parlé d'un drame qui s'est passé en France, en fait j'écoutais que d'une oreille, mais ça m'a interpellée. Il y a un chauffeur de bus qui a repris deux jeunes, 21 et 23 ans je crois, parce que ces jeunes ne voulaient pas mettre leur masque alors que c'est obligatoire et je crois qu'il y avait un souci de ticket, de papier de transport. Et simplement, ce monsieur, 56 ans, papa de trois filles, il a fait son travail en leur demandant de mettre leur masque. Et en fait, ça a tellement énervé ces jeunes qu'ils l'ont agressé et ils l'ont tué. Voilà. Comment on peut arriver à employer nos mains juste pour une question de mettre un masque et tuer une personne comme ça? Moi, je crois que ces jeunes, ils avaient un passé, il y avait quelque chose. On ne peut pas tout à coup avoir des actes comme ça. Il doit y avoir des antécédents. Pour moi, c'est clair que leur environnement n'était pas sain. C'est clair qu'il y a eu des conseils de méchants. C'est clair qu'ils ont évolué sur la mauvaise voie. Pas forcément de leur propre initiative. On ne sait pas dans quel contexte ils sont nés, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Mais il y a eu un contexte qui a fait que, d'étape en étape, ils n'ont plus su adapter leur comportement. Et quelle est l'issue pour eux? C'est la prison. Pendant combien d'années? Et ensuite? C'est une dégringolade. Mais ce qu'on se rend compte avec ce psaume, c'est que la porte d'entrée, c'est vraiment les pensées. Et ça, c'est important de le comprendre. Et si je prends la suite du psaume, Qu'est-ce qui se passe? Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Ils ne résistent pas lors du jugement. Ils ne tiennent pas dans l'assemblée des justes. Et leur voie mène à la ruine. C'est vraiment, vraiment difficile, c'est vraiment négatif. Les méchants, c'est-à-dire les personnes qui se sont engagées dans cette voie qu'il faut fuir, ils sont comme de la paille. On aurait aussi pu dire comme de la balle avec un seul L, c'est un terme agricole. C'est quoi la balle? La balle, c'est la petite enveloppe qui entoure le grain de blé. C'est très, très léger. Et en fait, à l'époque, au Proche-Orient ancien, ils faisaient des aires de battage, enfin pas seulement au Proche-Orient d'ailleurs, on faisait des aires de battage, donc sur un endroit, si possible, élevé en plein vent, on prenait une surface plane, et quand il y a eu la moisson, on mettait toutes les gerbes de blé par terre, et on les écrasait. C'était pour les battre, c'était une aire de battage, battre le blé. On faisait même marcher des bœufs, des ânes avec des chariots lourds pour écraser ce blé, pour séparer le grain de la balle, le grain de la paille. Et ensuite, on mettait tout ça dans un vent, et c'est l'image que vous avez là. Il fallait vanner ce grain, c'est-à-dire le secouer, le lancer en l'air et le rattraper. Et la balle est tellement légère, avec le vent, qu'elle s'en allait. Et c'est seulement le grain qui tombait par terre. Donc c'était vraiment vanner, c'était pour séparer le grain de la balle. Et ensuite, on pouvait ramasser le grain, soit l'utiliser, soit l'engranger. Ce qui fait que ce psaume est déjà en train de nous parler de quelque chose d'extrêmement grave, qui est le jugement. Le jugement, on sait que c'est pour la fin des temps. On pourrait se dire, mais le jugement, c'est pour l'Apocalypse. Mais en fait, déjà dans l'Ancien Testament, on est averti qu'il y a un jugement qui vient. Ce jugement, il n'est pas pour les justes. Il n'est pas pour ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Ce jugement, il n'est pas pour nous. Pour nous, le jugement qu'on aura, c'est plutôt de peser nos œuvres. Qu'est-ce qu'on aura fait pour le Seigneur? Mais nous serons sauvés, nous serons épargnés du jugement. Par contre, pour les personnes qui prennent la mauvaise voie et qui sont rebelles à Dieu, eux, ils passent en jugement. Et ce psaume, c'est vraiment un avertissement. Il y a deux voies, prenez la bonne voie. Et Jésus, il le confirme. Enfin, il y a un texte qui parle tellement des mêmes choses dans Matthieu. En fait, c'est Jean-Baptiste qui annonce Jésus. Jésus qui va venir se faire baptiser. Et Jean-Baptiste, il dit quel sera le rôle de Jésus. Bien sûr, le rôle de Jésus, c'est de nous sauver, c'est son passage à la croix, c'est son acte de justification. Mais à terme, il y a aussi ce jugement qui vient. Et on n'aime pas en entendre parler, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, mais pourtant c'est une réalité, il faut vraiment être conscient que ça va venir. Et Jean-Baptiste, il parle de ça avec les mêmes termes agricoles, c'est dans Matthieu 3, les versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, donc c'est Jean-Baptiste hein, qui parle, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jésus, au moment du jugement, il va vraiment faire cet acte-là. Dans l'Évangile, c'est des termes agricoles qui sont utilisés parce que c'était connu de tout le monde. Mais ça veut vraiment dire qu'à un moment donné, il y aura un partage. Et ce qui est important, c'est de faire la différence. Mais heureusement, on peut faire la différence. Maintenant, je passe à l'aspect beaucoup plus positif. J'espère que je verrai un peu plus de sourire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a quelque chose d'extrêmement particulier. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une progression. Et pour le juste, pour celui qui est comme cet arbre, il n'y a pas de progression. Si vous regardez bien le texte, il y a un style hébraïque au niveau de la poésie. Souvent, les textes, et presque toujours dans les psaumes, c'est écrit avec des parallèles. C'est des parallèles soit qui accentuent la pensée, soit qui la confirment, soit qui disent le contraire. Par exemple, là, le parallèle, on a deux voix. On a les méchants et puis on a les bons. Ou on a deux fois le mot « ressemble » ou bien là, dans cette version, c'est... Oui, c'est « ressemble ». On a le juste. Il ressemble à un arbre planté près des eaux. Et les méchants ressemblent à la paille. Par exemple, le juste, il donne son fruit en sa saison. Mais en fait, le méchant, au contraire, il se disperse. Le juste, il ne se flétrit pas quand vient l'adversité, mais le méchant, lui, il ne résiste pas. Le juste, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais pour le méchant ou les pécheurs, il va à la ruine. Donc en fait, il y a plein de parallèles. Et si on prend le début, on voit toute une progression, il y a trois éléments, et pour le juste, il n'y en a qu'un. Pourquoi? Eh bien justement, parce que le domaine de la pensée, c'est la porte d'entrée. Et quand le juste, il trouve son plaisir dans la méditation de la parole, il est dans le domaine de la pensée, il médite. C'est la parole qui nourrit ses pensées. Et la parole, elle descend à l'intérieur et elle fait son œuvre. C'est pas le juste qui fait l'œuvre de la parole. Mais la parole, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc en fait, quand il a son texte sous les yeux et qu'il l'apprend ou qu'il le lit, qu'il le médite, il est en présence de Dieu lui-même et il prend Dieu à l'intérieur. Et Dieu, il fait son œuvre de restauration. Il fait son œuvre de transformation, il fait son œuvre d'édification, mais il change la personne. Il l'édifie, il prend de plus en plus de place. En fait, c'est une communion avec le Seigneur, avec Jésus. Donc le seul parallèle qu'on a là, c'est entre le conseil des méchants et la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, c'est pas ce mot « loi », « tu dois pas ». La loi de l'Éternel, ça représente toute l'Écriture. Quand ça a été écrit, ça représentait toute la partie de l'Ancien Testament qui était écrit à ce moment-là. Mais on voit que tout se tient et que Jésus, il a repris ces paroles des psaumes. Donc en fait, la loi, ça veut dire mais toute la parole de Dieu, c'est toute l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Donc il ne s'agit pas de « je dois lire ma Bible ». Il faut que je lise trois chapitres aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai pas lu ma Bible. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans le fait de prendre plaisir, de se dire, mais je me réjouis d'aller dans la parole parce que c'est mon cœur à cœur avec le Seigneur. Parce qu'il va entrer à l'intérieur de moi. Il va nourrir mes pensées. Et qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet arbre, il va porter du fruit. Mais pour porter du fruit, et c'est ça que je trouve tellement bien, c'est que il étend ses racines vers le courant d'eau. Il n'est pas juste en train d'attendre que la pluie lui tombe dessus. La pluie, c'est une bénédiction. Mais il y a des fois des saisons ou des années sans pluie. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas juste que la pluie lui tombe du ciel, mais il étend ses racines. Elles grandissent, ses racines. Il étend ses racines jusque vers le courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est vraiment le Seigneur. C'est sa parole, c'est le Seigneur. Et lui, il est toujours là. Que pendant une année, il y ait de la pluie ou il n'y ait pas de pluie, ce courant d'eau, lui, il est toujours là. Toujours. N'importe où. Où que vous soyez, le Seigneur, il sera toujours là. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'aurez pas physiquement le bouquin papier avec vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez même plus entendre de prédication, vous aurez même plus Internet ou quoi que ce soit à disposition. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez comme les chrétiens persécutés qui se retrouvent dans des prisons, dans des endroits impossibles avec rien. Jésus sera toujours là et sa parole aussi, surtout si vous l'avez mémorisée. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir des textes de référence, qu'on puisse tourner, se redire. Et ça, c'est le travail des racines. Et les racines, à l'exception de quelques arbres, elles ne se voient pas. Les racines, c'est notre profonde intimité. Plus nos racines s'étendent et vont profondément, plus ça reflète l'intimité qu'on est en train de développer avec le Seigneur. Et plus on se plonge dans le terrain du Seigneur, de sa parole, de sa vie, de ses réalités, plus on peut grandir, s'épanouir et porter du fruit. Un arbre qui a des racines comme ça, à la première tempête, il est par terre et il ne peut pas porter du fruit. Mais un arbre qui plonge profondément ses racines, eh bien, proportionnellement, il s'épanouit. Il donne du fruit en sa saison. À l'origine, les arbres fruitiers étaient plus nombreux sur la terre que maintenant et que les autres arbres, parce que c'est les fruits des arbres que Dieu a donnés à Adam et Ève. Ça, vous pouvez le lire dans la Genèse. La nourriture de nos premiers parents, c'était des fruits, les fruits des arbres. Et dans l'Ancien Testament, les arbres fruitiers ou les fruits, c'est un signe de bénédiction, c'est un signe de richesse. Et ça, on peut le voir par exemple dans les nombres quand Moïse, il envoie des espions dans le pays de Canaan pour aller voir si c'est un bon pays. Les espions, ils reviennent et pour porter une grappe de raisin, ils doivent se mettre à plusieurs, ils ont une barre, ils suspendent les grappes et puis ils les tiennent sur l'épaule parce que elles sont tellement grosses, ces grappes, qu'un homme tout seul ne peut pas les porter. Et en fait, c'est pour montrer, mais c'est un pays riche, c'est un pays où coule le lait et le miel. Les fruits qu'ils ont ramenés, c'était le témoin de la richesse du pays. Alors, porter du fruit, c'est être une bénédiction. Porter du fruit, c'est devenir une bénédiction pour autrui. Porter du fruit, c'est influencer favorablement son entourage. Ça peut être dans l'église, bien sûr, mais ça peut aussi être n'importe où ailleurs. C'est le soin qu'on va prendre des autres. C'est un coup de fil pour demander à quelqu'un « Mais comment tu vas ?» C'est inviter quelqu'un à aller boire un café, c'est rendre un service. C'est aller faire les commissions pour les gens fragilisés dans une période de pandémie. Ça peut être aller toquer à la porte des voisins pour leur rendre un service. Ça peut être un temps d'intercession dans le secret de sa chambre pour une personne qui vit quelque chose de difficile. C'est infini. C'est pas forcément spirituel. C'est vraiment dans la vie de tous les jours de faire du bien autour de soi par notre façon d'être, par notre vie. Et parfois, on est même tellement rempli de la présence de Dieu que ça se voit, que ça interpelle, que ça touche les gens et qu'ils viennent demander « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas ?» C'est arrivé dernièrement pour ma petite sœur une ancienne collègue qui lui a raconté des choses qu'elle vit très difficiles. Et ma petite sœur, elle lui a juste envoyé un message. Après, elle lui a dit « Je prierai pour toi ». Et la collègue, tout de suite, elle a dit « Ah, mais alors, attends, ça m'intéresse, parce que je vois bien que tu as quelque chose que je n'ai pas. Est-ce que tu es d'accord une fois de me parler de ta foi ?» Et elles se sont vues. Et ma petite sœur, ben, elle a dit tout naturellement, en fait, ce qu'elle vivait. Et sa collègue lui a dit « Mais moi, j'aimerais bien aussi aller dans une église. » « Ok, c'est pas compliqué. » Et en fait, tout le processus s'est mis en route pour qu'elles aillent ensemble à l'église. Ben, c'est simplement parce que ça s'est vu. Et quand ma sœur a écrit « Je prierai pour toi », eh ben, cette personne, elle s'est dit « Mais c'est fiable. C'est fiable parce que je vois sa vie. Je vois comment ce qu'elle est. Je vois sa vie. Et ça me fait envie de faire pareil. » Ça, c'est porter du fruit. C'est simple. C'est pas coûteux. Et le juste, il porte du fruit en sa saison. Ça veut dire, c'est pas forcément qu'il n'y a rien en hiver, qu'il n'y a que des fleurs au printemps, qu'il y a les fruits en été, qu'il y a de nouveau rien en automne. Ça veut pas forcément dire ça. Ça veut dire qu'il porte du fruit au moment opportun. Ça veut dire que, en fait, c'est un cycle naturel de porter du fruit. Ça se fait naturellement, c'est pas un effort. Ça vient comme ça, parce que on est tellement rempli du Seigneur, on est tellement rempli de sa parole, on se repasse sa parole quand on vit quelque chose de difficile. Ben voilà, on redit un psaume et les choses viennent. Moi, ces temps, je passais des temps où j'avais du mal à chercher le Seigneur, et ben je me suis dit, j'apprends le psaume 63 par cœur. Alors j'y suis presque. C'est « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. » Et je me le répète. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Ah oui. Seigneur, ça va tellement vite dans ma tête que est-ce que je me suis arrêtée pour te chercher. Mais mon âme a soif de toi. Tu me manques, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et de savoir ce psaume par cœur, je me redis ça, et puis pof, c'est reparti. Le Seigneur vient, il me remplit, ma prière, elle explose, elle s'enrichit. Et c'est comme ça que le travail se fait. Et des psaumes, il en existe pour toutes les circonstances. Et si on en sait, il n'y a pas besoin de savoir le psaume en entier. Mais, et ce n'est pas forcément un psaume, il y a toute la Bible à choix. Mais d'avoir comme ça des passages que l'on sait, que l'on médite, ça nous remplit et ça nous aide. Et ça nous permet ensuite de porter du fruit en sa saison, du fruit au moment convenable. Le feuillage ne se flétrit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saison sèche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête. Un arbre y fait face à l'hiver, à l'automne, à la sécheresse, aux pluies incessantes. Il fait face à toutes les circonstances possibles. Donc de traverser des difficultés, c'est normal. Dans le monde où on est, c'est normal. Par contre, son feuillage ne se flétrit pas parce que ses racines sont tellement profondes qu'il résiste et qu'il tient dans la tempête. Et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas coup de baguette magique, c'est pas ça que ça veut dire. Mais son but, son objectif, sa destinée éternelle, c'est la réussite. Même si ses circonstances ne sont pas favorables, la ligne, elle est droite. La ligne, elle est droite jusqu'à la vie éternelle. À la fin du psaume, il est noté « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Là, on voit vraiment ces deux voies. L'Éternel connaît le juste. Le juste, il connaît l'Éternel parce qu'il se nourrit de sa parole, parce qu'il a une relation avec lui. Et parce qu'il a une relation avec lui, Dieu connaît le juste. Dieu connaît sa voie. Et sa voie, c'est assis avec Christ dans les lieux célestes et dans l'éternité. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a des imprévus sur son parcours, tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il va droit à la maison. la maison éternelle. Le juste, il tient ferme. Le Seigneur peut créer des nouvelles circonstances quand celles qui étaient prévues ne se passent pas comme on voulait. Le Seigneur est capable de créer un nouveau chemin. Dans des choses que j'ai traversées qui étaient difficiles ou je ne voyais pas trop d'issue, j'ai reçu le psaume 84 au verset 6 qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ou la vallée de l'ombre de la mort, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » Et il se présente devant Dieu à Sion. Dieu est capable de créer un nouveau chemin. Dieu est capable de créer des nouvelles circonstances. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà l'avenir éternel du juste. Alors, ce matin pour moi, j'avais simplement envie de vous encourager à faire cette différence. On a envoyé les jeunes avec cette exhortation, mais faites la différence. Que l'on puisse voir celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas. Faites la différence dans votre sphère d'influence. Et bien que nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'individu et en tant qu'Église, nous fassions la différence. Que ça se voit. Que nous soyons tous tellement nourris de la parole, tellement nourris de la personne même de Dieu, que ça se voit et qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et je vous encourage à apprendre des passages par cœur. Je sais qu'il y a en tout cas un groupe de maison, peut-être plusieurs, mais un qui a commencé, mais continuez. Parce que moi, je vois les sourires qui font comme ça. Et en fait, c'est du solide, c'est de la dynamite. Alors, je vous encourage à le faire. Et si... on va te donner une petite impulsion de plus. Je vais juste vous mettre encore le verset de Jérémie 17, 7 et 8. C'est le passage de la Bible qui reprend le plus mot à mot les paroles de ce psaume qui dit, je sais que c'est écrit petit, c'est une chanson, c'est le 262 dans le Jem Vert, mais je ne sais pas si les gens le connaissent encore. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Moi, je vous propose, si quelqu'un ce matin se dit, ben tiens, moi, c'est quelque chose que je dois faire, ou que j'aimerais faire, ou il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, oui, je vais aller un peu plus loin, je vais me plonger différemment dans la parole pour m'en nourrir. Il y a quelque chose devant Dieu, une décision que j'aimerais prendre pour aller simplement à l'étape suivante. Ben, je vous propose de vous lever. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu vois chacun qui est debout devant toi et qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de porter du fruit, qui a envie d'avoir ta sève qui coule dans ses veines, d'avoir ta présence, de prendre conscience que tu es la source de la vie. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour le cœur de chacun qui est présenté devant toi en témoignage que c'est toi la source, que c'est toi qu'on choisit, que c'est sur ta voie qu'on veut marcher. Je te demande d'encourager chaque personne. Tu sais chaque personne où elle en est. Tu sais ce qui va bien, tu sais aussi les frustrations, tu connais les difficultés, tu sais aussi tout ce qui résiste. Je remets toutes ces choses-là devant toi, Seigneur. Je te demande que pour chaque personne, ces résistances maintenant soient brisées en ton nom. Je te demande que ces résistances soient déposées à ta croix et que tu puisses par ton Saint-Esprit remplir les cœurs, remplir les pensées de toutes ces personnes. Je te demande que ce soit ta parole qui remplisse leurs pensées. Je te demande, Seigneur, de les encourager. Encourage-les, donne-leur les trucs aussi, les moyens, comment faire pour apprendre par cœur, comment faire pour méditer, comment faire pour se rappeler au cours de la journée, de faire tourner ces choses dans la tête et dans le cœur, comment faire pour nourrir la prière. Je te demande, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit qui les visite maintenant, parce que sans toi, on ne peut rien faire. mais avec toi on peut tout. Et ta parole, elle est vie, tu es la parole. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, alors je sais que si on se met en route, tu confirmes ta parole. Merci de confirmer ta parole dans les vies de chacun ici présent. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Amen. À la fin de la Sainte Cène, on va faire passer un chant. C'est un chant qui est dans le CD, dans le dernier CD de Reeds. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà écouté, mais est-ce que vous aviez réalisé que c'était le psaume 1? Maintenant qu'on a un petit peu tourné ce psaume, eh bien certainement que vous allez le reconnaître. Amen.